Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions et Mercato. On va tout évoquer ce soir avec mes deux chroniqueurs, Farid Rouas, journaliste sportif, et Franck Dessous, supporter du PSG. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Julien. Bonsoir.
Tout va bien, le sourire comme le PSG en ce moment?
Toujours, ouais.
Exactement.
Avec un gros sommaire, on y va tout de suite. PSG-Brest, avantage aux Parisiens avec cette victoire donc samedi au stade Francis Leblé. Ousmane Dembélé on fire, une attaque au diapason. Le PSG impressionne avant de revenir à Brest en Ligue des Champions. Le Mans PSG, J-1, Thierry Gomez, le président du Mans, sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de l'accueil qui sera réservé aux Parisiens et nous donner tous les détails autour de ce 8e de finale de Coupe de France. Et puis le mercato d'hiver, il se termine ce soir à 23h. Le bilan côté parisien, les arrivées, les départs et les perspectives même pour la saison prochaine. Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens omnisports comme Paris. C'est parti. Brest-PSG, le premier acte, le premier des trois actes, c'était donc samedi au stade Francis Leblé, et on a envie de dire presque vivement le 11 février, tant cette première manche nous a offert un spectacle de haute volée. On va revoir les cinq buts parisiens avec la spéciale du moment. Côté parisien, Barcola qui sert Dembélé pour l'ouverture du score à la demi-heure de jeu. Brest égalise ensuite, mais le PSG repasse devant encore et toujours grâce à l'efficacité de l'inarrêtable Dembélé, monsieur Dembélé qui devient même quelques instants plus tard le premier joueur de l'histoire du club à enchaîner deux triplés avec au passage la passe magnifique à l'aveugle de Lee Kang-in. Gonçalo Ramos, super sub, s'offre lui un doublé en fin de match, messieurs, pour une victoire 5-2. Un PSG depuis quelques semaines, quelques matchs, enfin, j'ai envie de dire, en mode rouleau compresseur. On l'attendait.
Tout à fait. Dans cette affiche aux avant-goûts de C1, les Parisiens ont fait le job. Continuent sur leur rythme de la Coupe d'Europe. Et dans ce match spectaculaire, plaisant, voire de temps en temps indécis, les Parisiens ont quand même encore montré quelques lacunes en début de seconde mi-temps. C'est leur péché mignon, comme lorsque
le fait d'encaisser un but à chaque match, je crois, sur les 7 derniers matchs, aucun clean sheet.
Exactement, ils ont eu un relâchement face à City, Stuttgart, Reims. C'est leur péché mignon, ce ne sont pas des robots. Il ne faut pas trop répéter ces erreurs. Le Paris Saint-Germain, on peut le dire, presse avec générosité, contre-presse avec férocité. Leur milieu de terrain est organisé comme un tourbouillon, tout comme en attaque. Cette équipe du Paris Saint-Germain ressemble à un vrai collectif et ça fait plaisir.
Il y a une vraie montée en puissance depuis les 3-4 matchs, depuis 6
mois. Plus, moi, je dirais, tu sais, sur les 4 matchs qu'il y avait, l'enchaînement Lens, Monaco, Stuttgart, si je ne dis pas de bêtises.
Il y a eu deux fois Monaco.
Voilà. Et en décembre, là, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le collectif et ça coïncide aussi avec le replacement de Ousmane Dembélé.
Dans l'axe,
dans ce poste de faux neuf. Après, sur le match de Brest, samedi, dans la globalité, on a été très content du Paris Saint-Germain. Ouais. Après, comme je rejoins les propos de Farid, le bémol, ça a juste été peut-être en deuxième mi-temps, tu as eu un quart d'heure ou un peu une gestion du temps faible, ça s'est pas très bien passé, tu prends deux buts. Sinon, dans la globalité, on est très content de la performance.
Pour faire écho à vos propos, on va écouter ce qu'a dit Éric Roy, nos confrères d'RMC, hier, très intéressant, l'entraîneur du Stade Brestois. Ce Stade Brestois qui, on le rappelle, a affronté le Real Madrid en milieu de semaine, et il nous fait la comparaison, écoutez.
À l'inverse de ce qu'on a connu contre le Real, où on avait beaucoup plus la possibilité de jouer, de nous installer, de tout ça, cette équipe du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, que les 11 joueurs qui sont sur le terrain, tout le monde court, tout le monde attaque, tout le monde défend. Ils ont couru plus que nous, en ayant plus le ballon. Ça leur garantira peut-être pas de gagner la Champions League, mais en tous les cas, moi je pense sincèrement qu'ils se posent en sérieux prétendant.
C'est un bel hommage de la part d'Éric Roy, du principal intéressé, qui nous dit que collectivement, ce PSG-là l'a plus impressionné que le Real.
Oui, non, mais je rejoins complètement Éric Roy, et j'ai même peut-être un point commun avec Luis Enrique. J'ai foi en cette équipe, en ce collectif. Ça fait plaisir à voir. Et ça ressemble, je me répète, à un vrai collectif. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Les remplaçants, lorsqu'ils rentrent, font le job également. Pour une fois, avant, on était un peu critiqué la risée de l'Europe parce que le Paris Saint-Germain ne courait pas assez.
Et là, ce que Éric Roy nous raconte, ce qui est quand même assez dingue, c'est que le PSG a plus couru en ayant une possession de balle qui est largement supérieure.
Oui, mais c'est la patte de Luis Enrique depuis qu'il est arrivé l'année dernière. Il essaye de mettre quelque chose en place. Et là, on voit les prémices de ça. Donc, on l'a vu contre Brest, même avant, face à Manchester City. On, on, On l'a senti. Après, tu as des joueurs pour aussi qui le font. Par exemple, au milieu de terrain, quand tu as Warren Zaïre-Emery ou João Neves qui couvrent pas mal de terrain. Après, tu as la tenue de balle de Vitinha. Tu as des ailiers, en l'occurrence, Bagvara qui vient d'arriver, mais plus Barcola qui font les efforts défensifs, contrairement aux années précédentes. Donc, c'est un plus. Et d'où la force du collectif. Et je comprends les propos très flatteurs d'Éric Roy par rapport au
Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain était avant peut-être un point faible. Ouais. Aujourd'hui, c'est un point fort.
Ouais. Un PSG beaucoup plus collectif avec des éléments offensifs. Alors, on parlera ensuite de Dembélé, qui rayonnent tous en ce moment. Ramos, super sub, 8 buts sur les 12 derniers matchs. Barcola, ça y est, c'est reparti, 4 buts et 5 passes D sur les 6 derniers. Doué qui s'impose, Gvara qui s'intègre, de plus en plus de ressources pour Luis Enrique, qui finalement rayonne en ce moment. Ce n'était pas le cas au cœur de l'automne. Passé quelque chose?
Oui, il y a eu certainement un déclic où simplement l'efficacité est au rendez-vous aujourd'hui. Le jeu de possession était déjà là depuis le début de l'ère Enrique. Simplement, les attaquants sont en confiance. Luis Enrique a confiance en ses attaquants. Il y a un retour des choses à la normale.
Bon, elle est pour toi celle-là, Franck. Au sein de cette équipe, il y a un garçon qui marche littéralement sur l'eau depuis quelques semaines. Ousmane Dembélé, 14 buts sur les 9 derniers matchs, là où il n'avait marqué que 5 fois lors des 17 premiers matchs de la saison. Tu l'avais prédit, Franck.
Ouais, je l'ai.
Et on va rendre à César ce qui lui appartient. À quoi tu attribues? Il y a le changement de poste, bien évidemment, ce changement de dimension d'Ousmane Dembélé.
Bah, un peu comme le vin, je sais pas, il prend de l'âge, il se bonifie. Et je pense qu'avec le départ d'Mbappé, il a pris conscience que ça allait être lui, le leader technique du Paris Saint-Germain. Même s'il faut pas oublier que pendant octobre, novembre, ça s'est pas forcément bien passé avec Enrique. Ouais. Par rapport à sa suspension, à sa mise à l'écart face à Arsenal. Et là, je pense qu'à partir de là, il a vraiment pris confiance que ça allait être lui qui allait porter le Paris Saint-Germain. Et on le voit, il a été replacé dans l'axe, en ce poste de faux numéro 9, électron libre. Pour le moment, ça sourit. Peut-être que, je sais pas, dans 5-6 matchs, ça va peut-être pas sourire, mais pour le moment, c'est
numéro 9, Ousmane Dembélé. Le débat, j'ai envie de dire, est presque clos, finalement, sur les gros matchs.
En effet, en tout cas, il est efficace. Ouais, efficace. Et il répond présent dans les gros matchs. Il est insaisissable, c'est un poison insaisissable. C'est le leadership de l'attaque. Ouais. Actuellement, il est lucide, il est attentif, il est concentré dans le dernier geste. Ça fait plaisir. J'oserais dire presque que c'est normal au vu de son potentiel. Mais il marque des buts et tant mieux pour le Paris Saint-Germain.
Toi, l'oracle d'Ousmane Dembélé, est-ce que ce changement de dimension à 27 ans, tu le vois s'inscrire dans le temps? Est-ce qu'il peut enfin devenir, comme on l'imaginait, l'un des 3-4 meilleurs joueurs du monde?
3-4 meilleurs joueurs du monde, je sais pas, mais l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, oui.
Meilleur buteur déjà. Je pense que ce sera pas loin du NFP du meilleur joueur en fin de saison.
Oui, meilleur buteur, mais là, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, il a pris conscience de quelque chose. On lui a confié les clés.
Il y
a un déclic mental. Ouais. Et aussi, chose à ne pas oublier, il est épargné par les blessures, contrairement aux années précédentes. Ouais. Et ça joue beaucoup.
Aussi. Exact. Je voulais qu'on parle de Gonçalo Ramos, qui a encore claqué un doublé samedi à Brest en sortie de banc, mais qui, avec l'arrivée de Gvara, l'explosion de Dembélé dans ce registre-là, semble condamné au rôle de super sub. J'ai envie de dire là aussi dans les grands matchs, parce qu'il jouera certainement demain au Mans, Farid Gonçalo Ramos.
Oui, je pense que Luis Enrique va faire tourner. Pour l'instant, il a ce costume de super sub. Il le remplit très bien. Il s'attendait peut-être à avoir un peu plus de temps de jeu. J'ai confiance en lui. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, il va grappiller du temps de jeu. Il va continuer à marquer des buts. Et je pense qu'il va se faire sa petite place au sein du PSG.
Il peut s'en contenter, Franck, de ce statut-là. À terme, il y a un départ inéluctable pour Gonçalo
Ramos. Peut-être on verra en fin de saison. Mais je pense que là, sur les 5 prochains mois, ça va être son rôle. Il jouera les seconds matchs. Par exemple, demain, contre Le Mans, il sera titulaire. Peut-être contre Monaco, vu qu'après Brest, c'est la Ligue des Champions. Mais je pense qu'il sera super sub. Il est plutôt à droite devant le but.
Oui.
Donc sur ça, il n'y a pas de souci à avoir.
Brest-PSG, on y revient, la deuxième manche, mais la première en Ligue des Champions, ce sera donc dans une grosse semaine, le mardi 11 février. Alors ça, à 18h45, l'horaire n'est pas terrible, pour les Brestois notamment. Après la démonstration parisienne samedi en Bretagne, le PSG a-t-il pris un avantage pour les barrages? Écoutez la réponse de Luis Enrique.
Les deux matchs de Ligue des Champions se joueront dans une compétition totalement différente où les petits détails sont importants, où il faut avoir de la réussite. Ce n'est pas une compétition qui met en avant la régularité comme le championnat. Cela ressemble plutôt à la Coupe de France. Ces deux prochains matchs face à Brest seront vraiment une autre histoire.
Brest-PSG, PSG-Brest, on a fait le bilan, 6 confrontations depuis l'arrivée sur le banc d'Éric Roy au stade brestois. Alors le PSG, je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les matchs, et notamment ceux de la saison dernière, le PSG a souvent gagné, 5 fois, mais a souvent dû, et c'était encore le cas samedi, batailler effectivement face aux Bretons. Est-ce que ce barrage, je posais la question de manière un petit peu frontale, est déjà plié selon vous ?
Alors moi, j'ai beaucoup trop de respect pour Brest pour dire que le match est déjà plié. Tant qu'il n'est pas joué, il n'est pas gagné déjà. Le bilan face à Brest est plus que positif.
Sur les résultats, mais souvenez-vous effectivement notamment de ce match en coupe l'an dernier et du 2 partout au Parc où le PSG menait 2-0.
Le Paris Saint-Germain a grandi à travers durant cette Ligue des Champions. C'est redevenu une menace européenne. Avec son intensité, son efficacité, sa constance. J'espère que le Paris Saint-Germain va se qualifier, mais rien n'est gagné et on peut s'attendre à deux beaux matchs aller-retour.
Personne n'imagine le PSG se faire sortir par Brest. Franck, est-ce que c'est pas justement le contexte le plus dangereux là où il faut se mettre ?
Non, parce qu'en fait, du coup, t'as Luis Enrique, il connaît un peu ce type de match, donc en gros, il va préparer les joueurs. Après, ça reste deux compétitions différentes. Ouais. Et si Paris veut faire mal à Brest en Ligue des Champions, ils leur feront mal. Et comme l'a dit Farid, avec tout le respect qu'on a pour Brest, le match, il est pas jouer, mais normalement. Et puis il y a le match. Donc en gros, si ça se passe, ça devrait bien se passer pour le Paris Saint-Germain. Ils ont un ascendant psychologique. Ils sont meilleurs, que ce soit physiquement, techniquement. Donc si élimination il y a, ce serait un gros cataclysme.
Oui, on est d'accord.
Voilà. On va voir le résultat du sondage. On vous a demandé justement sur le hashtag Cop Paris si le PSG était déjà en 8e de finale de Ligue des Champions avec ce tirage au sort favorable face à Brest. Vous êtes quand même très très optimiste avec 66% des votants qui voient le PSG éliminer le Stade Brestois lors de ses barrages. Petite coupure pub et on va se retrouver dans quelques instants pour évoquer la Coupe de France. Le Mans PSG c'est demain soir et Thierry Gomez, le président du Mans, sera avec nous dans quelques minutes. À tout de suite. De retour dans Cop Paris, mes deux chroniqueurs du soir sont toujours là. Franck Dessous et Farid Roux, à ce petit changement de programme, on va évoquer le Mercato. On démarre par le Mercato qui va se clôturer ce soir à 23h. On est à moins de 3h de la fin de ce Mercato d'hiver et l'on peut déjà tirer un bilan de cette fenêtre de transfert côté parisien, sachant que cela ne devrait plus bouger dans le sens des arrivées d'ici 23h. Une arrivée, mais pas n'importe laquelle, celle de Kvaratskhelia, 70 millions d'euros pour l'ailier géorgien et pas mal de départs, on y reviendra, Colomani, Asensio notamment. Du point de vue des arrivées, messieurs, Kvaratskhelia, c'est quand même un très joli coup à ce moment-là de la saison, pendant une fenêtre de transfert où on n'a pas l'habitude de voir de si grands noms se formaliser finalement.
Exactement, non, c'est vraiment un très bon renfort offensif. Le Paris Saint-Germain, c'est le 7e club de sa carrière, après Batoumi, Lokomotiv Moscou, Ruben Kazan. Il a été l'un des artisans du dernier Scudetto napolitain en Serie A en 2023. Quoi dire sur lui ? Il est percutant, rapide, très à l'aise dans les petits espaces. Il va faire du bien au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain donc a misé sur un ailier plutôt en avançante, ça veut tout dire. Mm-hmm. Luis Enrique veut des joueurs polyvalents.
Ultra polyvalents.
Et non, c'est bien. Je pense.
Ça va apporter de la concurrence aussi.
Au-delà de la qualité, Franck, il y a cette idée de concurrence à renforcer en attaque et on a l'impression que voilà, ça a déjà eu un petit effet sur Bradley Barcola.
Ouais, ça l'a réveillé en fait. Désiré Doué aussi. Mais Barcola, oui, c'est vrai qu'il était un peu, il était dans le creux de la vague en décembre. Mais là, l'arrivée de Xvara l'a réveillé. Ça a apporté un casse-tête à Luis Enrique. Mais bon, sur ce plateau, on sait tous
quel va être casse-tête, franchement, il est surtout pour nous.
Le trio.
C'est les suiveurs, lui, c'est où il va. Et finalement, bon, il a cette espèce de puzzle avec cette interchangeabilité, la capacité de mettre quasiment tous les joueurs à chaque poste.
Exactement, à droite comme à gauche, parce que Barcola peut très bien jouer à droite. Mm-hmm. Il a commencé à Lyon, je crois, du côté droit. Ouais.
Il a même été formé au poste d'avancement de Barcola.
En plus, Kvara peut jouer très bien sur le côté, voire en numéro 9 comme il joue. Exactement.
Il permutait les trois.
Exactement. Kvara a déjà joué numéro 9 avec l'équipe de la Géorgie. Donc, c'est bien. C'est des joueurs polyvalents. Et oui, Luis Enrique aura le choix.
Alors Kvara, c'est très très bien, mais est-ce que c'est vraiment suffisant ? Le PSG n'avait-il pas d'autres besoins qu'en attaque ? On peut faire ligne par ligne, il y a le milieu de terrain, et puis il y a la défense, et je pense notamment au poste de latéral droit. Allez-y, hein, dans l'ordre.
Latéral droit, oui, parce que contre Stuttgart, Warren Zaïre-Emery, la doublure officielle d'Hakimi s'est blessée. Hakimi, face à Brest, il n'a pas fait un top match. Après, c'est normal, parce que physiquement, il n'est pas bien. Donc ouais, peut-être, je sais pas, là ça se termine à 23h, s'il y a une opportunité de se faire prêter un latéral droit.
C'est pas les derniers, ouais, les voilà. derniers bruits que l'on a pu...
Après, peut-être un défenseur central droit pour remplacer numériquement Skriniar, ouais. parce qu'avoir deux défenseurs centraux gauchers, moi je suis pas fan perso, mais
Henrique... On a le 3 avec Kimpembe. Ouais.
Exactement.
Oui. Alors, bon, alors pour lequel, petite parenthèse, la question a de nouveau été posée avant un match de Coupe de France à Luis Enrique, jouera-t-il demain? Peut-être.
Peut-être.
Voilà.
Peut-être.
On verra pour
qui... Tout dépend le scénario du match.
Farid, voilà. Sur les besoins de l'effectif du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y avait d'autres besoins que de renforcer l'attaque?
Oui, oui, je rejoins complètement Franck. Je pense que on a un manque du côté du poste de latéral droit. Mmh. Quelqu'un de métier. Ouais. Warren, il fait de son mieux, mais
c'est son... Oui, c'est jeune,
c'est jeune, c'est trop tendre.
C'est le seul dont c'est le poste de prédilection. Parce qu'aujourd'hui, la question lui a aussi été posée. Tu le rappelais, Warren Zahir Emery, la doublure officielle est blessée pendant quelques semaines. On a eu quasiment la moitié de l'effectif cité par Luis Enrique, hein, Seni Mayulu, João Neves. Il n'y a pas de doublure.
Non. Et puis, un vrai droitier. C'est vrai qu'on peut faire jouer un gaucher. Ils sont capables de s'adapter. Mais oui, il y a un vrai manque de ce côté-là. Et c'est bizarre quand même pour un club tel que le Paris Saint-Germain d'avoir un trou dans la défense à droite. Mais bon, faut espérer que Hakimi continue à jouer aussi bien et à être très, très haut dans les nuages.
Tu parlais de la défense centrale. Effectivement, avec le départ de Milan Skriniar, numériquement, il fallait pour toi peut-être aller chercher un autre défenseur central, d'autant que l'on entend que la direction sportive s'intéresse quand même à la succession de Marquinhos, aller chercher un défenseur central.
Mais là, on en discute même depuis août 2024, s'il y avait une opportunité à ce poste-là, il aurait fallu la saisir, mais là, ce n'est pas le cas. Et Skriniar, il est parti, si, je ne sais pas s'il y a une opportunité de marcher, se faire prêter un joueur... Juste pour combler, parce qu'en fait, avoir Beraldo, Pacho, Hernandez, si Marquinhos se blesse, ouais. Kimpembe, il n'entre pas dans les plans. Ouais. J'aurais peut-être signé un
milieu de terrain. On n'a pas parlé du milieu de terrain. Les trois, on en a un qui est blessé. Warren Zahir Emery, il y a eu un petit pépin, a priori rien de grave pour João Neves. Ils sont quatre pour trois places. Alors on peut mettre effectivement Kanguini,
Doué,
Mayulu. 4 titulaires pour 3 postes. Après, le reste, c'est de la rotation. Enfin, c'est du complément sans leur faire injure.
C'est comme le poste de latéral. Jusqu'à présent, on disait souvent le Paris Saint-Germain perd ses matchs au milieu de terrain. Manque de taille. Là, actuellement, le milieu de terrain nous est presque envié en Europe. Oui, avec la blessure de Warren Zahir Emery, ça va poser problème. Ça va donner du temps de jeu à Ruiz. On a pu le voir. Ruiz a un crédit non limité avec Luis Enrique. Ouais. On peut se poser la question. Mais voilà, il faut espérer qu'il y ait de moins en moins de blessures et que Warren revienne très, très vite.
On va maintenant évoquer les départs, messieurs. Alors, tous ne sont pas encore ficelés à 100%. Certains dépendent des autres avec ce jet de chaise musicale qu'on a découvert sur les histoires de prêt. Ça a posé quelques petits soucis, notamment pour Randal Kolo Muani. On peut revoir l'infographie sur les départs, les arrivées, surtout sur les départs. Et on va démarrer par Xavi Simons. On ne l'avait pas forcément vu venir, cette vente-là, sur cette fenêtre-là. La plus grosse vente de ce mercato. Il va définitivement s'engager avec Leipzig pour 50 millions d'euros hors bonus, quasiment 30 millions d'euros de bonus, assez facilement atteignables visiblement. Très belle vente du point de vue financier, du point de vue sportif, Farid, tu comprends ?
Non, moi j'espérais quand même qu'il tente sa chance au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il avait, il pouvait avoir son mot à dire dans la rotation de Luis Enrique. Il a été formé à Barcelone. Il est arrivé au Paris Saint-Germain à l'âge de 16 ans.
Il joue alors plutôt au poste.
Il aurait pu jouer sur un poste offensif.
Oui. Mais il avait l'opportunité, je pense, en début de saison dernière. Il y avait des discussions, mais je pense que le discours d'Enrique ne lui a pas plu, en fait, parce qu'Enrique ne lui a pas garanti une place de titulaire, d'où la vente là en janvier. Je pense que c'est ça.
Je pense que lui, il a
peut-être voulu imposer.
On a beaucoup entendu dire cet été qu'il y avait un problème, enfin une inadéquation, je vais y arriver, sur la volonté du joueur et le temps de jeu, entre guillemets. Mais Luis Enrique ne garantit pas de temps de jeu.
Je suis assez d'accord. Je pense qu'il aurait dû persévérer, il aurait dû attendre, il aurait dû tenter sa chance. Après, il a préféré partir en Allemagne, il a été prêté un an et demi. Maintenant, il est transféré complètement. Ça donne des liquidités au Paris Saint-Germain.
Ouais, parce que financièrement, c'est quand même un très joli coup. Ouais. Je sais pas si on peut vraiment résumer le deal comme ça, mais ça rembourse presque, avec les bonus éventuels, l'arrivée de Kvaratskhelia.
Complètement, non, non, c'est une très bonne affaire pour une fois. Pour une fois, on est positif sur une transaction.
C'est vrai qu'on dit souvent que le PSG achète cher et revend pas très bien. Là, on a l'impression que le PSG a
bien. Au travail de Luis Campos et ses
équipes. Exactement, il faut le dire.
Regret, pas de regret pour Xavi Simons, si je résume. Oui, pour Farid, pas vraiment
non,
pour...
Non, pas de regret, c'est dommage.
Non.
Non, pas de regret, personnellement, moi, pas de regret.
Un petit peu pour Farid.
Oui, oui, bah après, autant qu'il aille en Allemagne, en Bundesliga et qu'il s'éclate. Moi, j'aurais aimé le voir quand même...
L'aurait vu au milieu de terrain.
Milieu de terrain ou plus haut, dans la rotation de Luis Enrique, tous les joueurs sont interchangeables. Ouais. Je pense qu'il avait son mot à dire.
Bon, messieurs, avez-vous des regrets pour ce garçon-là? On va voir des images d'un joueur qui a retrouvé le sourire, qui s'éclate depuis quelques semaines. Randal Kolo Muani, prêté à la Juve, sans option d'achat. On va revoir ses deux buts hier avec la vieille dame sur la pelouse face à Empoli. La Juve était menée 1-0. Randal Kolo Muani a claqué un doublé. La Juve de Thiago Motta s'est imposée finalement 4 buts à 1. Ça fait 3 buts en 2 matchs pour Kolo Muani depuis son arrivée. On se doutait que ça allait se passer comme ça. Kolo Muani allait partir, aller marquer. Ceci étant dit, Kolo Muani et Luis Enrique, ça devait s'arrêter, il n'y avait pas d'autre solution.
Oui, malheureusement, moi j'étais un fan de Kolo Muani au Paris Saint-Germain. J'espérais vraiment qu'il devienne titulaire, comme il l'est avec l'équipe de France. On lui a donné sa chance, pardon. Malheureusement, il n'a pas répondu présent.
C'est vrai que les 6 premiers mois, et on le répète souvent ici sur le plateau de Cop Paris, il avait eu la chance d'enchaîner tous les matchs titulaires en Ligue des Champions sur la phase de poule, Randal Kolo Muani.
Non, non, tout à fait. Il a joué à tous les postes de l'attaque parisienne. Malheureusement, il n'a pas été efficace. Et pour un attaquant, ce sont les stats qu'on regarde le premier. Tant mieux pour lui qu'il s'éclate du côté de la Juventus de Turin et de l'Italie. Il va reprendre confiance et tant mieux pour l'équipe de France.
Ces 3 buts en 2 matchs, Franck, quand même, avec la Juve, c'est la preuve que Kolo Muani a le niveau, mais pas le style, pas l'ADN.
Ouais, pas le style, pas l'ADN Luis Enrique. Comme l'a dit Farid, il a eu sa chance, oui et non. Bon, en ce début de saison, il n'a pas vraiment eu. Mais après, non, c'est une question de... Ouais. C'est une question de contexte. Le Paris Saint-Germain, c'est un contexte très particulier. Peut-être qu'il avait une pression énorme, je ne sais pas, quand il jouait au parc.
On l'a jamais senti véritablement heureux. C'est
peut-être
vrai.
Contre Marseille, où il met son doublé l'année dernière. Mais sinon, ouais, c'est une question de contexte. Après, ça reste un bon joueur. J'espère qu'il va s'épanouir à la Juventus. De
toute façon, il est le numéro 9. Alors, peut-être Ousmane Dembélé le remplacera.
Non, je ne pense pas.
Deschamps, on n'en a pas parlé, ça tient une petite parenthèse. Ousmane Dembélé, numéro 9 en équipe de France.
Non, tu connais Didier Deschamps, il est pragmatique, il laissera trop pragmatique. Ça sera Dembélé à gauche, Mbappé, à droite.
Par contre, on peut retrouver l'attaque de l'année dernière du Paris Saint-Germain.
Oui,
Barcola, Dembélé et Mbappé.
Oui, puis j'avais même mis Barcola dans l'équation. Enfin, Kolo Muani, Barcola, Mbappé. Et Dembélé.
Et
on a 4 pour 3 places. Du point de vue financier, là aussi, le PSG va peut-être faire, entre guillemets, une bonne affaire avec Randal Kolo Muani, parce qu'à chaque but marqué, c'est un prêt sans option d'achat. Mais il regagne de la valeur et la perspective existe de voir le PSG, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais rentrer dans ses frais. Le PSG a quand même dépensé 90 millions d'euros sur Kolo Muani.
Ah, je pense que ça va être compliqué de récupérer sa mise.
Non, peut-être pas l'entièreté de la somme.
La moitié, peut-être.
Voilà, oui, exactement.
La moitié.
50, oui.
Si tu mets 10 buts avec la Juve d'ici le mois de mai, tu récupères normalement au moins 50 millions d'euros.
Normalement. Parce qu'en plus, il est en prêt sans option d'achat. Ou avec, je ne sais plus. Mais bon, je pense que.
Sans option, hein. C'est un prêt payant, mais sans option.
Ouais, l'année prochaine, je pense qu'il ne sera plus au Paris Saint-Germain.
Non, je ne pense pas.
Il reviendra l'été prochain, effectivement. Et là, il y aura certainement un départ vers d'autres cieux. On va continuer à évoquer le mercato, un petit peu la Coupe de France également avec le match face au Mans. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de Cop Paris. De retour dans Cop Paris avec Franck Dessous et Farid Rouas, messieurs. On va continuer à parler du mercato. On aurait aimé parler de la Coupe de France, on le fera peut-être en fin d'émission. Il y a un joueur dont le départ est quasiment officiel, c'est quasiment bouclé, c'est Marco Asensio en partance pour Aston Villa. Cher Endur, lui aussi, a été officiellement transféré à la Fiorentina. Ça libère donc une place en prêt pour Marco Asensio. Marco Asensio, premier constat, dites-moi si vous êtes d'accord, le déclassement de Marco Asensio a quand même été très bref, très rapide, très brutal.
Terrible, parce que en début d'année, on parlait de lui comme potentiel numéro 9 pour remplacer Ramos qui était blessé. Et du jour au lendemain, on le voit plus. Il a disparu lors des 10 derniers matchs. Je sais même pas s'il a joué 20 minutes.
Il a joué 2 bouts de match depuis début décembre.
De toute façon, ça a toujours été ça son rôle. Mais du jour au lendemain, on l'a plus vu. Assez surpris.
C'est vrai qu'il n'y a eu aucune titularisation cette saison. Trois entrées depuis novembre.
Ouais. Franck a raison sur le fait que après la blessure de Gonçalo Ramos, je ne dis pas que c'était le numéro 1, mais ça faisait partie des options crédibles. Il a joué, il a marqué quelques buts. Puis à partir du mois de décembre, plus rien.
Oui, on le disait, Enrique est compatible. Il l'a connu au Mondial 2022. Il le faisait jouer comme un meneur de jeu avancé, mais ce n'était pas son rôle. Et je pense que là où tu voulais en venir, Franck, c'est que même au Real Madrid, il a eu du mal à s'imposer.
Fragile, joueur fragile. Grosse blessure des croisés.
Après, il a quand même glané de nombreux titres. Malheureusement, il n'a pas réussi à s'imposer du côté du Paris Saint-Germain.
C'est la méthode Luis Enrique. Enfin, qu'est-ce qu'il a pu se passer selon vous ?
Je sais pas, peut-être nous on voit pas, mais ces séances, je sais pas, à l'entraînement, peut-être qu'il y a quelque chose qui allait pas. Il a pas répondu présent, mais c'est vrai, du jour au lendemain, il a dit.
Il a toujours dit mes actes diront plus que mes paroles. Bon, on a bien compris. Il s'est passé quelque chose avec Marco Asensio.
Bah, comme on dit souvent, on joue comme on s'entraîne, ou inversement. Donc peut-être que vos entraînements, il avait moins d'envie, il se sentait moins titulaire dans l'âme, et il a fait les frais.
Je pose juste une petit bémol. Il aurait pas pu rendre encore quelques services, Marco. Asensio, si d'aventure, on ne le souhaite pas, mais un Guevara, un Barcola, un Dembélé se blesse.
Peut-être. Mais moi, ça me fait penser que ça va donner certainement un peu plus de temps de jeu à Mayulu. Donc, on met en avant la formation parisienne, et ça me fait plaisir.
Deux départs. Celui de Juan Bernat, qui a été libéré dans cet incroyable jeu de chaise musicale. On peut quand même y revenir. C'est peut-être le petit bémol de cette fenêtre de transfert. Il a été bien géré, ce mercato. Franck, il y a quand même eu l'imbroglio autour de Randal Kolo Muani et cette erreur, on va l'appeler comme ça, administrative, à un moment où le PSG ne pouvait plus prêter de joueurs. Je crois que c'est de plus de 21 ans à l'étranger.
On en a discuté dans notre groupe WhatsApp. On comprenait pas, en fait. C'est lunaire, en fait. C'est la gestion, désolé, mais c'est mon club de cœur, mais d'un club de district. On n'a pas compris, en fait, ce qui s'est passé. Comme ça, Randal Kolo Muani n'a pas pu être prêté. Je sais pas ce qui s'est passé dans les hautes sphères du club. Mais bon, tant mieux.
A priori, ils ont embauché une personne pour s'occuper que de ça.
Peut-être que le mail est arrivé dans les courriers indésirables.
C'est un règlement administratif. Je sais pas si cette personne est censée scouter, faire des rapports et avoir toutes les règles administratives.
Mais Julien, la personne,
c'est vrai que là, on n'est pas passé loin d'un énorme raté.
Elle avait si près à gérer.
Oui.
Je sais pas quelle est sa charge de travail, mais si près.
Et du coup, alors, Cher Endur, qui était prêté au Beşiktaş, part à la Fiorentina, et Juan Bernat, le contrat a été résilié. Dernier dossier, rapidement, celui-là. Alors, c'est pas pour ce mercato d'hiver, mais c'est le dossier des gardiens de but. On va peut-être passer à la Coupe de France parce qu'on a notre invité. Il est là, le président Thierry Gomez, il nous entend. Bonsoir Thierry. Est-ce qu'il nous entend, Thierry Gomez, le président du Mans? Moi, je ne l'entends pas du tout.
Bah écoutez, moi je vous entends.
Si, parfait. Merci Thierry d'être avec nous. On va évoquer ce huitième de finale qui aura donc lieu demain de Coupe de France entre Le Mans et le Paris Saint-Germain. Expliquez-nous déjà, président, juste quelle a été votre réaction, celle des joueurs et l'ensemble du club, quand le tirage au sort vous a offert le PSG.
On sait à la fois que ça va être beaucoup de travail, pour l'avoir déjà vécu, mais on sait aussi que ce sont des moments... des moments rares pour un club de football, et donc c'est l'occasion de rassembler, de fédérer, de faire une grande fête. Donc on doit le prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de sourire, avec l'objectif et l'idée de faire une grande fête du foot en Sarthe mardi soir.
Le stade sera plein demain soir, coup d'envoi à 21h10, stade de 25 000 places, président, et je crois que vous auriez pu le remplir trois fois plus.
Oui, on a encore des demandes qui arrivent, qui affluent aujourd'hui quotidiennement, des messages, des SMS. Ça prouve effectivement l'importance, et notamment l'importance d'un club de football professionnel sur son territoire en province, au sein de la ville, au sein de la métropole, du département, et tout ce que ça peut apporter d'un point de vue économique, mais aussi en termes d'image, de communication. Et puis ne pas oublier le rôle social qu'a un club. On a des supporters qui, depuis 15 jours, 3 semaines, vivent avec nous et préparent ce match. Et pour eux, c'est un grand moment d'émotion.
Je crois qu'un accueil d'ailleurs tout particulier sera réservé, alors non pas aux joueurs du PSG, mais à vos joueurs. J'ai entendu parler d'un cortège ou d'une escorte pour amener les joueurs jusqu'au stade demain soir.
Oui, l'idée, encore une fois, c'est que ça soit une grande fête de foot. Donc on a invité tous nos supporters déjà à venir sans et hors, que ça soit un vrai stade sartois qui supporte l'équipe. Et puis en amont, au niveau de l'approche du stade, d'accueillir et d'encourager, montrer au public qu'il est déjà là pour soutenir notre équipe jusqu'à l'entrée du stade.
Président Farid Rouas, journaliste sportif qui est avec moi en plateau, et une question pour vous.
Oui, bonsoir monsieur Gomez. Dites-moi si je me trompe, mais le coach Patrick Vidéra, c'est un ancien du Paris Saint-Germain. Il y a joué de 8 à 18 ans. Je présume que pour lui, ça va être un match un peu spécial.
Dans lequel il a créé, connu des amitiés, donc c'est forcément spécial. Maintenant, on est aussi au Mans FC. C'est un jeune entraîneur qui est un gros travailleur, qui est ambitieux, et c'est normal et c'est bien. Et donc aujourd'hui, sa première ambition, c'est effectivement de préparer au mieux l'équipe pour cette rencontre exceptionnelle qui aura lieu donc au stade Marie-Marvin demain soir.
Comment vous l'imaginez, comment vous l'espérez, Président, cette rencontre face au PSG, face à un PSG, on vient d'en parler, qui est quand même très impressionnant depuis quelques matchs?
Oui, non, c'est que cette année, le PSG a un collectif très impressionnant, très très fort, notamment sur les derniers matchs. Donc, vous savez, tous les scénarios sont possibles, hein, ça fait très longtemps que je suis dans le monde du football, donc on sait que tout est possible, que parfois... on peut bien démarrer un match et mal le terminer, que des circonstances peuvent aussi casser la dynamique de la première mi-temps ou rééquilibrer les débats sur la deuxième mi-temps. Donc écoutez, on va voir ça, on attend ça en tout cas avec attention. Encore une fois, il y a des centaines, des milliers de dirigeants qui vivent avec leur club et qui n'ont pas la chance d'avoir ce moment de bonheur, d'avoir un peu les projecteurs sur eux et puis de rencontrer l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc encore une fois, nous on le prend avec le sourire, on le prend avec aussi nos valeurs, la simplicité, la proximité avec notre public, et on veut que ça soit encore une fois un grand moment de fête. Et après sur le terrain, on verra ce qui se passera. C'est ça qui fait l'intérêt du football, et c'est que c'est le sport le plus incertain et que personne n'est capable aujourd'hui de savoir ce qui va se passer, même si on sait que forcément le Paris Saint-Germain est favori. Mais si nous n'avons qu'une chance, eh bien cette chance, on va la jouer à fond.
Est-ce que vous êtes, ou est-ce que vous allez vous adresser à vos joueurs avant le match, ou vous laissez ça à votre entraîneur, le message fédérateur d'avant-match?
Non, mais on a un dialogue permanent avec les joueurs, avec le staff. Vous pouvez me lancer sur le débat, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps à l'antenne sur les présidents qui ne doivent pas s'occuper du sportif.
C'est un grand débat en ce moment.
Avec l'entraîneur, on n'a jamais parlé avec les joueurs. Moi, je n'ai pas cette vision des choses. Le cœur du métier, le cœur d'un club de football, c'est le sportif. Donc, on échange beaucoup sur le sportif. Et il y a de fortes chances qu'effectivement, je parle aux joueurs dans l'après-midi.
Petite précision, c'est aussi quand même une belle récompense pour tout le peuple manceau, pour tous les supporters manceaux qui, il y a une dizaine d'années de ça, a connu le club en Ligue 1. Il y a eu le dépôt de bilan, la descente en National. C'est aussi une manière de remettre votre club dans une très belle lumière demain soir.
Oui, mais j'ai l'impression que les médias ont oublié qu'effectivement, moi je suis arrivé il y a 9 ans, le club était en N3. On a eu le bonheur déjà de connaître trois montées successives, de retrouver la Ligue 2. Donc ça a été des moments aussi très forts, exceptionnels. On a fait revivre le foot en Sarthe et au Mans. Malheureusement, il y a eu l'année du Covid et il y a eu une grande... Puisqu'on a été la seule fédération en France, même en Europe, à faire descendre nos clubs. Donc on a reconnu le national. Donc depuis 3-4 ans, on est effectivement en national. Donc il y a moins d'exposition, même si on a, sur 2 ou 3 saisons, on a été très proche des barrages. Mais effectivement, il y a moins d'exposition. Et là, on revient à la lumière parce que on reçoit le PSG et qu'on est en 8e de finale de la Coupe de France. Il ne faut pas oublier que dans 4 jours, on sera aussi en quart de finale de Coupe de France, toujours contre le PSG.
Chez les féminines.
Donc c'est une semaine exceptionnelle pour nous.
Dernière question, Président, ça représente quoi financièrement l'avenue du Paris Saint-Germain? C'est une vraie manne financière, surtout si le PSG vous laisse la recette?
Un vrai plus, mais a priori le PSG ne nous laissera pas la recette. Donc voilà, mais écoutez, on fera les comptes à côté parce qu'il y a des frais de sécurité qui sont importants. Encore une fois, on veut faire de ce stade une belle fête, donc on a prévu des animations. On a le DJ Yann Muller qui sera là pendant 2 heures avant le match pour faire chanter et danser les gens dans les tribunes. On a prévu encore une fois plusieurs animations. Donc avant de parler d'argent et de business, on veut vraiment vivre ce moment avec beaucoup de sourires et puis en espérant vivre de belles émotions.
Eh ben, on vous souhaite un grand moment de plaisir, un très beau match demain soir. Thierry Gomez qui était l'invité ce soir de Cop Paris. Et un beau parcours également en national, c'est important avec la montée. On vous le souhaite.
Sixième.
En fin de saison, on passe tout de suite à l'Omni, sans transition, les résultats de vos clubs franciliens du week-end.
Quelques mois après les JO et en l'absence de Teddy Riner ou Clarisse Agbenino, le Grand Slam de Paris était un rendez-vous pour la jeunesse française. Marta Fawaz, en moins de 57 kilos, a conquis son plus beau titre à 22 ans. Même âge, même formidable impression pour Romain Valadier-Picard, sacré en moins de 60 kilos.
Cet été, je suis allé au Japon pendant les Jeux. C'était horrible pour moi de voir les gens qui étaient aux Jeux. Et là, revenir avec une belle médaille, encore plus une médaille d'or autour du cou, mais c'est tellement bien. Ça récompense mon travail.
Troisième et dernier titre, celui de Léa Fontaine en plus de 78 kilos, catégorie la plus relevée du judo féminin français. Les Bleus repartent avec 15 médailles, c'est mieux que les 12 breloques de l'an dernier. Après le rebond à Nantes, la confirmation à Strasbourg, celle que le Paris Saint-Germain va un peu mieux. Les joueuses de Fabrice Abriel se sont rassurées. Romelu Stern ouvre le score. Puis le PSG profite d'un contre-son-camp des Strasbourgeoises pour faire le break. En fin de rencontre, l'Alsacienne Liana Joseph réduit l'écart. Paris s'impose tout de même 2-1 et revient à un point du Paris FC. Le Paris Basket a tenu son rang sur le parquet de Nanterre pour le derby francilien. Les Parisiens avaient fait le choix de se priver de quelques cadres comme Nadir Ifi, mais ont pu compter sur leur meneur TG Shorts à 16 points et 11 passes pour s'imposer 92-78. Ce 14e succès de la saison permet à Paris de conforter son statut de leader à égalité avec Cholet et devant l'Asvel, battu à Limoges. Rendez-vous maintenant avec l'Euroleague face à l'Olympiakos ce mercredi.
Cop Paris, c'est déjà fini. Il y avait pas mal de choses à se dire et à raconter ce soir. Merci à Farid Rouas et à Franck Dossou. Merci également à Alexis Goudjian qui était ce soir à l'édition. Cop Paris, je vous le rappelle, est disponible en replay, en podcast sur l'appli RMC BFM Play ainsi que sur le site web de BFM Paris. Très bonne semaine à tous. On se retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous.